philosophie de la nature par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 19 octobre 1995.
La première expérience qui nous conduit à la philosophie de la nature et à la philosophie de l'art. Oui. Dans le sens où on découvre quelque chose d'antérieur au travail de l'homme. Or, vous avez dit également que c'est par la distinction entre mouvement artificiel et mouvement naturel que l'on découvre la nature comme cause efficiente du mouvement. Pourquoi alors découvre-t-on en premier lieu la cause matérielle et non pas la cause efficiente? Je vois très bien. Ne séparons pas des distinctions. Oh, j'y reviens, il paraît qu'il faut lire les trois objections en même temps, du moins les trois questions en même temps. Quand Aristote découvre la phusis comme principe et cause du mouvement et du repos, n'est-ce pas sa découverte premièrement comme cause efficiente? Si ce n'est pas en premier lieu, quand est-elle découverte comme cause efficiente? Chez le vivant, chez le vivant. Vous avez dit que c'est parce que la cause matérielle implique du plus et du moins qu'on ne peut rester à la nature matière et qu'on doit poser la matière première. Tout à fait d'accord. Comment une cause peut-elle impliquer du plus et du moins? Parce que c'est la cause matérielle. Cause qui implique ça. Parce que la cause matérielle est source du mouvement. Donc elle-même implique une potentialité. Dès qu'il y a potentialité, il y a du plus et du moins. Ben, c'est très curieux la cause matérielle. Je comprends que c'est très gênant pour vous. Je comprends très bien. Et j'étais comme vous avant. C'est-à-dire que j'ai souvent dit que c'était la cause efficiente. Aristote n'est pas net. C'est vrai. Donc on doit le repenser. Et au fond, j'allais dire, vous voyez, que notre position pour la philosophie de la nature doit dépasser celle d'Aristote. Pourquoi? Parce que depuis Aristote, il y a la physique contemporaine, la physique, la science physique, qui nous oblige d'aller beaucoup plus loin dans la purification du regard de la philosophie de la nature. Et c'est vrai, c'est pour ça que je ne pose pas le problème, mais on pourrait. Peut-être que pédagogiquement, ce serait mieux de poser tout de suite l'aspect critique. Doit-on, dans le monde d'aujourd'hui, face à la physique contemporaine, maintenir une philosophie de la nature? Certains diraient tout de suite, la physique, j'ai entendu ça plus d'une fois, la philosophie, la science physique moderne remplace la philosophie de la nature d'Aristote. Donc, ne parlons plus de la physique d'Aristote. C'est une solution. C'est une solution rapide. Mais ce n'est pas du tout la solution que je prends. Parce que pour moi, la philosophie de la nature implique un réalisme fondamental philosophie. Parce que ce que dit la physique contemporaine n'implique pas le jugement d'existence. Mis entre parenthèses, jugement d'existence. Par le point de vue des mathématiques. La formalisation de la science physique d'aujourd'hui se fait par les mathématiques. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Par le fait même, cette formalisation se faisant par les mathématiques, mais entre parenthèses, le jugement d'existence. Or, notre corps fait partie de notre personnalité humaine, philosophique, de notre personne philosophique. Si, de fait, quelque chose qui marche plus. Vérifier là-bas. Je vous ai dit qu'il fallait tout le temps me dire s'il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors il faudrait peut-être des signes pour que celui qui est là comprenne. Il y aurait un signe bleu, un signe rouge. Alors il aurait un œil là-bas, un œil ici, et puis entre deux. Bon. Je reviens là-dessus. Les sciences physiques modernes nous dit autre chose que la philosophie de la nature. Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est cette autre chose, plus radicale, qui implique le jugement d'existence, et qui implique le jugement d'existence dans, j'allais dire, dans sa forme génétique la plus simple. L'expérience que j'ai de ce qui est mu. Et cette expérience de ce qui est, de ce qui est mu, je l'ai en moi-même. Dès que je m'endors, je tombe, ma tête dégringole. Dès que je rate une marche, bêtement, je risque de dégringoler. Dès que je me casse une jambe, je fais l'expérience de ce qui est mu. Puisque le vivant n'a pas pu résister à cette chute. Il est cassé. Pour mon bras aussi. Et ainsi de suite, je fais l'expérience constante de ce qui est mu. Triste expérience. Puisque ça conduit à la corruptibilité. Je porte en moi une capacité de corruptibilité. Il y a un fait d'être, ça sent déjà mauvais. La corruptibilité, je la porte en moi, ça. Ce qui est mu. Le vivant, c'est merveilleux. C'est le parfum des fleurs. Et la corruptibilité, c'est pas ça du tout. Et je porte en moi ça. C'est très curieux, ça. C'est pour ça qu'on a de la peine à comprendre, parce que il y a une barrière qui dit non, 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 non. Le réalisme de la cause matérielle. Il faut la saisir. La causalité matérielle, c'est une causalité propre, différente des autres causalités. Elle est fondamentale. Elle est radicale. Qu'est-ce que c'est que la causalité matériel, c'est une causalité de réceptivité. Elle reçoit et elle accapare. Il n'y a rien qui accapare plus que la matière. Parce que sans la forme, elle n'existe plus. Donc c'est une lutte fondamentale. Sans la forme, elle n'existe plus. La matière toute seule n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on a la tentation permanente de tomber dans l'idéalisme. C'est-à-dire la matière, c'est une condition sine qua non pour l'existence. Mais ce n'est rien. La matière est une réalité possible. elle n'existe pas, séparément de la forme. Et c'est ça dont nous avons beaucoup de peine, parce qu'au fond, nous avons beaucoup de peine de distinguer sans séparer. Nous avons, depuis Don Scott, le vénérable, nous avons depuis Don Scott la tentation permanente, qui est une tentation d'idéalisation, de confondre la distinction et la séparation. Distinguer, ce n'est pas séparer. C'est l'intelligence qui fait la distinction. C'est une distinction du côté de l'intelligibilité. Je reste dans l'ordre de l'intelligibilité. Je ne touche pas encore le réel. L'intelligibilité conduit au réel. Mais c'est autre chose. La matière existe. Et son intelligibilité est distincte de la forme. Est distincte de l'efficience. C'est une intelligibilité de réceptivité. Et elle est fondamentale. Alors, vous voyez, je pose tout de suite la question. Vous allez peut-être comment comprendre par là. Ce sera un point de vue critique. On est, au fond, très critique. On a beaucoup de peine d'accepter ce qui est avant la critique. Alors, quelquefois, le passage par la critique est clair. Toute causalité est saisie à partir d'une expérience. Ça, je crois que tout le monde peut accepter ça. Puisque la causalité, c'est saisir l'antérieur à l'expérience. Ceci vient de l'autre. Et tout rapport de causalité ou de loi, la loi et le principe se tiennent. Et donc ça nous aide à comprendre le principe. Parce que la loi, tous comprennent ce que c'est que la loi. Hein. C'est un rapport d'antécédent et de conséquent. Si P, Q, si je mets ceci, il y aura tel effet. C'est ça la loi. Venez. C'est donc saisir un rapport d'antécédent et de conséquent. Et dans le principe, c'est aussi saisir un rapport d'antécédent et de conséquent. Mais c'est le saisir au niveau de l'être et du devenir. Et non plus seulement au niveau du rapport, de la relation. La loi est une relation. Or, la relation est une forme. Et il peut y avoir des relations de raison. Et comme il y a des relations réelles, quand il peut y avoir une relation de raison, la loi existe par le fait même avec un fondement de l'intelligence. Mais la loi peut très bien ne pas être adéquate au réel. La cause et le principe sont inséparables. Voilà, la cause est inséparable du jugement d'existence. Et ce jugement d'existence porte sur le devenir comme il porte sur l'être. Or, si je réfléchis au plan critique sur les diverses causalités, causalité matérielle, causalité formelle, causalité efficiente, causalité finale. Je peux assez facilement voir que la causalité finale, c'est la cause et cause. Puisque causalité efficiente ne se meut que si elle est finalisée. Parce que je veux faire quelque chose que je me mets au travail. Je veux connaître la vérité, c'est pour ça que je me mets au travail. Si je n'avais pas cette intention de découvrir la vérité, je ne me mettrais pas au travail. Ce serait mieux de rester dans un fauteuil, à fumer. Non, ce serait bien plus agréable. On aurait des séances de... ici. Alors vous pourriez dire, nos chaises ne sont pas favorables du tout à ce repos familial de détente. On est très mal assis là-dessus. de faire un coup assis dans un fauteuil. Hein? Pourquoi? Parce que la causalité matérielle est trop forte. Tandis que assis sur une chaise, ça va. Il faut réfléchir sur ces petits détails de la vie courante, soit. Le fauteuil favorise la cause matérielle, donc s'endormir. Quand vous vous endormez, la cause matérielle, ah, délectation. Délectation, le vivant en partie meurt. Et c'est pour ça que les gosses n'aiment pas dormir. Ils sentent ça. Nous, on aime de dormir quand on est fatigué. On a assez travaillé. Et dans le monde d'aujourd'hui, on a toujours assez travaillé. On veut diminuer le travail. C'est un fait, ça. Pourquoi? Parce qu'on a évalué le travail avec de l'argent et des choses comme ça. On a matérialisé le travail. Mais matérialisé au sens terrible. On l'a plus rendu humain. Alors que si le travail est humain, on l'aime. C'est ma première activité. Et le psychologue a tout à fait raison de dire, tant qu'un homme aime son travail, il n'est pas totalement déséquilibré. Et donc un bon psychologue doit toujours reprendre l'homme où il a encore du goût pour tel travail. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un vilain dingue. Petite activité qu'on aime bien. J'aime de lire des romans policiers. Hein? Il y en a qui sont comme ça. C'est leur travail. De détecter, hein. Et d'aller plus vite que la conclusion du livre, pour être sûr. Ah, j'ai trouvé. Il y a la conclusion. Là, il confirme. Hein? Je suis dans la vérité. On aime ça. Mais il y a des gens comme ça. Alors à ce moment-là, quand ils sont fatigués, qu'ils lisent des romans policiers, ça leur mettra avec un peu de goût de travail. S'ils aiment la métaphysique, quand ils sont fatigués, qu'ils fassent la métaphysique. Je prends une fois les deux extrêmes. Ça les réveillera et ça leur redonnera courage. C'est très simple, c'est une pédagogie élémentaire, ça. Et qui est meilleure que toutes les autres pédagogies, vous savez. Parce que analyser le mal, vous ne l'aurez jamais. Saint Thomas dit qu'il n'y a pas de cause propre du mal. Alors moi je m'amuse quand les gens disent qu'ils veulent chercher la cause propre du mal. Mais non, allez chercher, vous ne la trouverez jamais. Il n'y a pas de cause propre du mal. Parce que le mal n'a aucune fécondité. Le mal c'est la causalité matérielle qui veut être une cause séparée. Séparée. Alors, je continue. La causalité matérielle, c'est la cause la plus fondamentale, la plus pauvre de toutes les causalités. Et donc, où va-t-elle se détecter? Où la cause matérielle va montrer le bout des oreilles? Je suis la causalité matérielle. Je suis la cause matérielle. Où elle se rendra? Devant l'expérience la plus pauvre, la plus fondamentale qui existe. C'est l'expérience du mouvement naturel. Que je saisis par le toucher, que je saisis par le regard, que je saisis par l'ouïe. Que je saisis par le goût. Que je saisis par l'odorat. C'est extraordinaire, ça. Tous les sens y sont. Pour saisir la cause matérielle, pour saisir, c'est pour expérimenter le mouvement. C'est vraiment l'expérience la plus radicale qui soit. Vous ne pouvez pas en chercher de plus radicale que celle-là. C'est donc elle qui peut seule me détecter la cause matérielle. Et alors ça, c'est très difficile de répondre à ça. Hein. Si quelqu'un est en objection devant ce raisonnement, qui est un raisonnement critique. Oui, alors, ça ne me fait pas découvrir la cause matérielle, mais ça me confirme que découvrez la cause matérielle que par le mouvement. Et donc, c'est bien le mouvement naturel qui me permet de découvrir en premier lieu, fondamentalement, découverte propre, le point de vue de la cause matérielle. Alors, c'est très vrai que j'aurai la tentation permanente de m'arrêter à la forme, de m'arrêter à la cause efficiente. Le mouvement implique tout ça. Le mouvement implique une cause efficiente, je suis tout à fait d'accord. Le mouvement implique une cause formelle, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'aurais la tentation de dire, simultanément, je découvre la cause matérielle, la cause formelle et la cause efficiente. Très bien, c'est très juste. Mais on peut peut-être aller un peu plus loin. Et découvrir quelle est la cause propre que le mouvement physique, dans ce qu'il a de tout à fait caractéristique, me permet de découvrir. Et que seul le mouvement peut me faire découvrir. Et c'est ça qui m'intéresse. L'originalité particulière de la recherche à partir de l'expérience du mouvement, de cette philosophie de la nature. Son originalité, c'est me mettre en présence d'une cause matérielle et de me faire découvrir la matière. Voilà son originalité, la nature matière. Et comme il y a du plus et du moins, la matière pure, la materia pura, c'est la descente aux enfers philosophiquement, c'est la descente radicale, qu'est-ce qui est à la racine de tout notre univers, pas ce qui fait son unité, mais qui fait son fondement, mais c'est la cause matérielle, je regrette, mais c'est la cause matérielle. Et nous sommes pris par cette cause matérielle dès que la vitalité en nous n'est plus suffisante. Et quelqu'un dit « je meurs ». Il ne mourra pas celui qui dit ça. Mais ça fait quelquefois un drame, n'est-ce pas ?« je meurs ». Qu'est-ce qu'il dit ça? Pourquoi il dit ça? Il sent qu'il ne peut plus émerger. Il est là. Arrêtez, je ne peux plus respirer, je meurs. Celui qui meurt vraiment ne le dit pas. C'est curieux, mais c'est comme ça. Parce que quand il le dit, c'est encore la cause formelle et la cause efficiente. Puisque le vivant dit qu'il meurt. Et qu'est-ce qui meurt? C'est le non-vivant. C'est le non-vivant qui est à la racine de la mort. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas la mort. S'il n'y avait que la forme, il n'y aurait pas la mort, vous savez. Pour un idéaliste, la mort est télescopée. Je me souviens, dans une table ronde, on discutait sur la mort, il y avait dedans un idéaliste. Mais dit, la mort, ça n'existe pas. Ça veut dire, elle est bien bonne, celle-là. La mort, ça n'existe pas. Il y a la disparition de quelque chose. Oui, mais je peux appeler ça la mort quand même. Je veux bien que d'une certaine manière, ça n'existe pas. Et que le vivant n'aime pas la mort et tourne le dos à la mort. Donc il n'appelle pas, il ne la regarde pas. Alors voyez, comprenez bien, dans l'expérience du mouvement physique, non artificiel, non volontaire. Donc un mouvement physique à l'état pur est présent la causalité efficiente, la causalité formelle, la causalité matérielle. Mais il y a un ordre propre dans ces causalités. Alors, cette petite remarque d'Aristote, quand il découvre la distinction entre acte et puissance, il dit dans le devenir, la puissance est première. Or, la potentialité, c'est la cause matérielle. critique cette piste qui est l'application de l'acte de la puissance. Qui confirme ça? Et la troisième, c'est l'induction qu'on a faite, toute simple. J'ai l'expérience du mouvement. Je l'ai par le toucher. Je l'ai par l'œil. Je l'ai par l'odorat. L'odorat, quand c'est l'air. Parce que l'expérience de l'odorat de la pierre qui bouge, difficile. Avoir un odorat particulièrement fin pour sentir que la pierre est en train de se corrompre. Parce que c'est solide et c'est dur. Mais le mouvement, l'œil, l'expérience du mouvement physique, montre qu'il y a un passage d'une détermination à la détermination. C'est comme ça que vous pouvez voir. Les gens, les hommes des bois, comment distingue-t-il un arbre qui est en train de mourir pour être coupé? Qu'il marque quand il voit justement qu'il y a des branches d'une où il n'y a plus de bourgeons, plus de sève. Ça commence à se rétrécir. C'est, vous voyez, quelque chose qui se rétrécit. C'est très curieux. Le vivant se rétrécit, s'affaisse. Vous n'avez pas vu quelqu'un de très longtemps, quelqu'un de grand, puis vous le retrouvez un peu affaissé. Cette espèce d'élan. C'est vrai, ça, c'est des constatations. On peut pleurer dessus, mais c'est pas la peine de pleurer. C'est une réalité physique. On ne pleure pas devant les réalités physiques, on les constate. Et on constate où, point de vue du lieu, on n'a plus la même souplesse. Vous voyez, le petit lapin qui bondit, quand il vieillit, il bondit moins. Et l'homme est un petit lapin de temps en temps, c'est pas quand il passe en dessous des prairies barbelées. Et puis quand il vieillit, il ne peut plus. Il levait le lin, je me suis pas en dessous, je peux plus. La souplesse d'un gosse. Et quand il vieillit, il n'y a plus ça. Vous voyez, on retrouve la rigidité. On passe d'une forme à l'autre, d'une souplesse à une non-souplesse. Et ainsi de suite, on constate toujours le mouvement par les qualités. Mais les qualités ne me donnent pas le mouvement. Les qualités me font constater qu'il y a un mouvement. Mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement? En quoi est-il? Je dis tout de suite en quoi il est, parce que c'est le fondement. C'est le fondement du passage d'une qualité à l'autre qui explique le mouvement, qui permet le mouvement. Et le mouvement se réalise là. Donc c'est bien la cause matérielle, la détermination de tel sujet, donc sa matière, qui permet ce mouvement. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de mouvement. Donc quand vous posez la question en quoi le mouvement, c'est la matière. Et vous déterminez là tout de suite la diversité des matières. Quand je dis la souplesse, quand je dis la grandeur, c'est différent. Et quand je dis que ça va jusqu'au bout et que ça se corrompt. Il y a toute une diversité, toute une gamme de mouvements. Mais ce qu'il y a de commun, c'est que c'est toujours la possibilité d'un passage à autre chose. En quoi le mouvement? Cause matérielle. Qui implique du plus et du moins. Je crois que c'est ça qui doit nous aider, vous voyez, à découvrir cette causalité matérielle à partir de l'expérience du mouvement physique. poétique, c'est une simplicité absolue. Tout ce qui est mu par un autre. Quand Thomas d'Aquin dit ça, vous voyez, quand tout ce qui est mu par un autre, alors tout de suite par un autre, on pense à la causalité viciante. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à penser le mouvement naturel. On pense tout de suite au mouvement artificiel. Là, dans le mouvement artificiel, c'est évident, tout ce qui est mu par un autre, c'est mu par mon bras. Mais quelle est la causalité matérielle ? Ah, ça dégringole. Ce mouvement de la feuille qui tombe est naturel. Ce mouvement de la feuille qui est artificiel. Le mouvement artificiel conduit tout de suite à la causalité viciante. Le mouvement naturel conduit à une autre causalité. En quoi ce mouvement ? En vue de quoi ce mouvement ? La qualité de ce mouvement ? D'où vient ce mouvement ? Voyez, essayez de jongler, parce que ça c'est jongler, point de vue du jeu, des diverses causalités. Essayez de jongler à partir d'un mouvement naturel, pas un mouvement artificiel. Et c'est pour ça que c'est si important au point de départ de distinguer le mouvement naturel ou artificiel. Ça, mouvement artificiel. Alors on coupe au sécateur. On coupe le poulet au sécateur. C'est-à-dire qu'autrement, la maîtresse de maison, quand elle le poulet, elle savait le couper organiquement. C'est-à-dire qu'autrement, le coupe au sécateur. Ça pèse tant, ouais, tant pis. Mais comme si elle, le poids donné faisait... Bon, oui, en, la qualité est subordonnée au poids. C'est très mauvais. Et on vit là-dedans. Alors on ne sait plus ce que c'est que la cause matérielle. Vous ne pouvez plus le savoir. Vous ne pouvez plus découvrir la cause matérielle dans un mouvement artificiel. C'est là où on voit que c'est vraiment cette découverte de la cause matérielle qui fait comprendre le mouvement naturel. C'est lui qui nous fait entrer dans ce mouvement naturel et qui nous fait découvrir ce mouvement naturel. Alors, je sais très bien que la découverte de la cause matérielle implique, après, la découverte de la cause formelle, la découverte de la cause efficiente, la découverte de la cause finale. Alors, Aristote, lui, et c'est normal, parce que dans ce domaine-là, il ne faut pas l'oublier, il va contre Platon. La grande découverte d'Aristote contre Platon. Pour Platon, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de philosophie de la matière. Puisque la matière est néant. Elle est non-être. Donc il n'y a pas de philosophie de la matière. Aristote veut réhabiliter la cause matérielle. C'est pour ça que les marxistes sont aristotéliciens. Parce que là, il y a un petit quelque chose de commun. C'est au moins, Aristote n'est pas bourgeois. Parce que le propre du bourgeois, selon le marxisme, c'est celui qui idéalise. C'est-à-dire, c'est celui qui ne veut pas regarder le mouvement naturel et qui ne regarde que le mouvement artificiel.